Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, je vous propose un gros plan sur des métiers invisibles. Elles sont caissières, personnel de ménage, ils sont livreurs, chauffeurs. Souvenez-vous, ces métiers étaient considérés, il n'y a pas si longtemps encore, comme essentiels au moment de la pandémie mondiale de Covid. Pas de masques, pas de protection, pas de télétravail et des salaires vraiment bas, soit 15% de moins que l'ensemble des salariés, en tout cas pour la France. Pour ces travailleurs des premières et deuxièmes lignes. 4 ans après la crise du Covid, quelle est dans le fond la situation des travailleurs modestes dans des sociétés de consommation où le client est roi? Quelles sont leurs réelles conditions de travail? Comment sont-ils considérés aussi? Faut-il parler de métiers de service ou de servitude? Pourquoi ces métiers ne font pas l'objet d'un débat public? Appelez-nous si vous savez, regardez tout simplement autour de vous ou si vous connaissez de l'intérieur ces métiers peu considérés. Vous qui n'avez jamais la parole, ne laissez pas les autres parler à votre place. Appelez-nous dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Et bien sûr, si vous êtes employeur aussi, vos points de vue nous intéressent. Vos appels sont bien sûr anonymes. Je vous présente nos invités. Racha Balmehdi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Racha. Vous êtes journaliste. Et pour survivre un temps dans la jungle des piges, vous avez exercé aussi ces métiers. Ces petits boulots, hein, on les appelle comme ça quand on espère qu'ils sont temporaires.
Oui, tout à fait. J'en ai fait tout au long de mes études et j'ai même dû continuer au-delà, oui.
Vous publiez à votre service les travailleurs essentiels qu'on ne voit pas aux éditions Favre, ça vient de sortir. Cyrine Gardès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue au CNAM, le Centre d'études de l'emploi et du travail, et vous avez publié Essentiel et invisible, classe populaire au travail en temps de pandémie, c'était en 2022. Et vous avez étudié le secteur en particulier low cost, hein, c'est-à-dire les prix les plus bas, les magasins hard discount, et ses effets pour les salariés de la grande, distribution. Et puis on sera aussi en Argentine avec Théo Conscience, notre correspondant à Buenos Aires, où l'inflation et la politique du nouveau président précipitent plus de gens dans des emplois précaires de service.
8 milliards de voisins et la planète se parle.
Salut RFI, j'espère que vous allez bien.
Oui, bonjour à tout le monde.
Hein. Bonjour les voisines, bonjour les voisins.
Big up, c'est Alfred depuis Libreville au Gabon.
Les voisins, c'est vrai qu'on n'a pas la même porte, mais on vit dans le même environnement. On est tous ensemble en fait.
Ouais, mais on n'a pas tous le même job, hein, quand même. Tout de suite, écoutez Kadi. Cette Ivoirienne de 45 ans travaille comme femme de chambre depuis 17 ans dans un hôtel de l'Ouest parisien, un hôtel 4 étoiles. Arrivée il y a 20 ans, elle élève aujourd'hui 4 enfants avec son mari qui est chauffeur de bus scolaire. Notre reporter Charlie Dupiot a rencontré Kadi dans son quartier à Saint-Denis, dans un grand manteau. Il fait froid, elle boite parce qu'elle doit bientôt se faire opérer des genoux et elle se lève à 6 heures chaque matin.
Je dépose ma fille à l'école d'abord. J'arrive là-bas. Bon, trajet, c'est tellement long. C'est 1 heure de temps pour arriver là-bas. Bon, souvent, j'arrive là-bas à 9h30. Donc, je commence à travailler. Souvent, on finit à 15h. Normalement, c'est 18 chambres par jour.
Ça veut dire combien de chambres en 1 heure?
3 chambres à 1 heure. Si tu n'es pas quelqu'un qui est rapide, tu ne peux pas faire 3 chambres à 1 heure. Ce n'est pas possible. Quand je rentre d'abord, je commence à ouvrir la fenêtre d'abord. Je mets des produits d'abord dans la douche. Puis je vais ramasser le drap pour changer. Puis j'ai fini de changer. Après, je fais la poussière. Si j'ai fini de faire la poussière, le lit, tu vas tirer le lit pour le faire. Après, tu pousses.
Le matelas?
Oui, le matelas. Oui. À chaque fois, tu t'abaisses. Ça te fait mal. Quand tu dors la nuit, tout ton corps te fait mal. C'est un travail comme ça.
Est-ce que vous avez mal, par exemple?
J'ai mal au dos, mal au genou. Le soir, t'es épuisé. Franchement, t'es épuisé, t'es fatigué. Femme de chambre, c'est un travail qui est tellement dur. Quand tu n'as pas la force, tu ne peux pas faire femme de chambre. Si c'est 20 douches, tu vas laver. 20 lits, tu vas faire. Toujours ce même boulot. 5 jours par semaine.
Qu'est-ce que vous avez dans la tête quand vous, par exemple, quand vous faites un lit, quand vous faites une chambre, à quoi vous pensez?
Quand je sors, c'est l'argent que je vais chercher. C'est ça qui va avec moi au travail. C'est ça qui est dans ma tête. Je me dis que je vais chercher moi l'argent, c'est tout. Il faut que tu souffres pour avoir l'argent, pas avoir l'argent facile.
Et vous êtes payé combien alors pour ce travail?
Quand j'ai fait mon jet, le malement, c'est 1200.
1200 euros net.
Voilà, c'est ça.
Et est-ce que vous avez le sentiment que votre métier est valorisé?
Je ne peux pas dire que c'est un bon métier, parce que je n'ai pas le choix, c'est ça. Parce que ça me permet d'aimer mes enfants à l'école, c'est pour ça que j'ai fait. Avant, je faisais le ménage, 2 ans. Puis je commence à 5h du matin pour faire le ménage dans le bureau. Je fais travail de 2h, 3h. Je ne peux pas mettre mes enfants à l'école, ce n'est pas possible. Je vais chercher un travail qui peut me permettre de mettre mes enfants à l'école. Je dis, bon, je vais chercher femme de chambre, parce que les gens disent que les femmes de chambre, tu ne commences pas tôt. Là, comme ça, tu peux déposer ton enfant, tu as le temps.
En fait, ça vous arrange en termes d'horaire, ce métier, voilà, vous?
Oui, pour mes enfants, oui. Moi, je ne cache pas mon travail en Afrique. Je me dis que c'est femme de chambre. Moi, je n'ai pas honte dans mon travail. Moi, je me dis que c'est un travail normal, comme les autres. Mais souvent, les clients qui ne sont pas gentils avec nous, ils font des conneries. Par exemple, il y a deux qui peuvent faire, excuse-moi, les toilettes. La chasse n'est pas tirée, il faut que toi me tires. Il y a deux qui, même, ils ne se lavent pas là dans la douche, ils ne se lavent pas terre. Il y a l'eau qui est partout. Il y a deux, quand ils mangent, ils mettent les miels de manger partout. Tant du coup, il y a une chambre 20 minutes. Quand tu vois les dégâts comme ça, tu ne peux pas faire 20 minutes dessus. Souvent, tu fais une chambre à 40 minutes parce qu'il a fait des bêtises. Donc, ça te prend du temps. C'est toi ce qui va tout ranger. Quand tu vois la chambre, tu n'as pas envie de déranger. C'est le client, le roi. Il s'en fout. Il s'est dit qu'il y a quelqu'un qui est là pour nettoyer. Donc, il fait ce qu'il veut, il sort.
Qu'est-ce qu'ils pensent de votre métier, vos enfants? Est-ce que vous en parlez avec eux?
Ah oui, et tout, même ma fille, j'ai amené ma fille pour la montrer comment je fais.
Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre fille, en voyant votre métier?
Elle dit, maman, c'est dur. Elle dit, c'est comme ça. Puis fais ton école bien. Tu choisis ce que tu veux dans la vie. Tu ne peux pas faire comme moi. Nous, on a déjà quitté en Afrique. Les enfants d'ici, ils vont à l'école. Il y a deux qui sont partis à l'école, mais moi, je ne suis pas partie à l'école. Pas du tout.
Vous ne savez pas lire ni écrire?
Non, parce que je ne suis pas allée à l'école. Il y a beaucoup de métiers. On peut devenir médecin. On peut travailler au bureau. Travail qui ne bime pas les gens vite fait. Parce que les femmes de chambre, quand ils travaillent, ça abîme les gens vite. Parce que franchement, tu prends le large vite.
Ça vous abîme?
Voilà, c'est ça. Ça, il dit que je ne peux pas permettre mes enfants de faire femme de chambre. Ce n'est pas possible.
Reportage de Charlie Dupio. Cyrine Garde, pendant la pandémie, il y a 4 ans, on avait dit plus rien ne sera jamais comme avant. Pourquoi tous ces métiers en première ligne, en deuxième ligne, sont toujours comme avant, malgré d'ailleurs la pénurie de main-d'œuvre à l'heure actuelle?
Oui, tout à fait. Le témoignage qu'on vient d'entendre, il est très représentatif de la réalité de ces métiers dits essentiels, qu'on appelle aussi métiers de service. Hein. Si on extrapole un peu, on va avoir dans ces métiers-là les aides à domicile, les caissières, les agents de nettoyage, de propreté, et j'en passe. Hein. Il y en a énormément. Et effectivement, la pandémie a eu cet effet positif, il faut le dire, de les mettre en lumière. On a vu, on ne pouvait plus ne plus voir en tout cas ce paradoxe selon lequel il y a un ensemble de métiers qui font tenir la société et qui sont injustement mal rétribués. Ce sont des métiers physiques, la personne l'a dit dans son témoignage, hein, donc contraintes physiques, travail physique, contraintes psychologiques, des cadences à tenir, hein, des objectifs chiffrés à tenir, donc un nombre de chambres à faire par heure, un nombre d'articles à passer à la minute, hein, si je prends l'exemple de la grande distribution, donc des métiers de grande intensité de l'activité, des rythmes élevés à tenir avec des logiques de profit, de rentabilité qui sont très fortes derrière et qui expliquent aussi pourquoi la situation n'a fondamentalement pas changé pour ces personnes-là.
Avec des statuts toutefois qui peuvent être extrêmement différents. On peut exercer ces métiers de service peu valorisés en étant en CDI, en CDD, en étant en travailleur indépendant, en étant même non déclaré.
Tout à fait, mais ce qui va caractériser transversalement l'emploi dans ce secteur, c'est quand même sa précarité. Précarité des rémunérations, pour commencer, même si vous êtes en CDI, CDI, quand vous gagnez le revenu minimum, vous pouvez être considéré comme un précaire. Les métiers essentiels, on est à 1 600 euros de salaire net moyen, d'après les enquêtes. Hein. Mais en réalité, moi, quand j'interroge les caissières, j'ai plutôt des salaires à 1 200, 1 300, parce qu'on est sur des métiers de temps partiel. Hein. Qui dit temps partiel, dit salaire partiel.
Avec des temps de trajet élevés, ce qui fait que ce sont des personnes qui sont éloignées de chez elles assez longtemps.
Oui, et qui prennent
des emplois du temps en gruyère.
Tout à fait, avec des coupures. Vous travaillez tôt le matin, tard le soir. C'est le cas des femmes de chambre.
Racha Belmehdi, vous avez travaillé, vous, comme hôtesse d'accueil, concierge en entreprise, vendeuse dans une grande enseigne de fast-food, caissière...
Fast fashion.
Caissière ? Non ? Pourquoi vous avez exercé tous ces métiers ?
Déjà par nécessité, parce que voilà, tout au long de mes études, voilà, comme la plupart des étudiants, j'avais un petit boulot à côté. Et ensuite, parce que quand j'ai commencé à travailler comme pigiste, ben, j'ai connu une grande précarité.
Journaliste.
Voilà, comme pigiste, journaliste, tout à fait. Et j'ai connu une grande précarité. Et justement, un métier de ce type me permettait d'avoir une flexibilité en termes d'horaire. C'est-à-dire que j'ai trouvé assez facilement un emploi à temps partiel dans un grand magasin. Ce qui me permettait justement d'avoir une régularité pour payer mon loyer. Tout en continuant mes piges à côté.
Ouais, vous n'êtes pas la seule, hein, d'ailleurs, chez les journalistes pigistes et dans d'autres métiers, d'ailleurs, précaires, où il est difficile de faire carrière. Qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences, fondamentalement, Racha Belmehdi ?
J'ai pas été très loin de devenir misanthrope à un moment. Si vous voulez, c'est le contact avec le client qui est quand même assez particulier. Après, j'ai retenu des choses positives de ces métiers-là, c'est-à-dire que ça m'a permis de devenir beaucoup plus exigeante par rapport aux horaires, parce que quand on marche à la pointeuse, forcément, il n'y a pas d'écart possible qui existe. À partir d'une minute de retard, on est en tort et on peut rendre des comptes par rapport à ça. Ça m'a rendue beaucoup plus rigoureuse par rapport à ça. Ça m'a appris beaucoup la patience. Justement face à des clients qui peuvent être parfois, qui ont des attentes exponentielles en ce moment. Donc oui, j'en ai quand même tiré du positif, même si ce n'était pas très simple tout au long de l'aventure.
Payer pour être patiente et en même temps détester cette humanité ?
Détester cette humanité, après je n'ai pas envie de généraliser, d'en tirer un portrait totalement noir, mais ça peut être extrêmement difficile face à certains clients qui peuvent être d'une violence rare.
Ouais. Alors bien sûr, vous allez nous raconter vivre et travailler en bas de l'échelle. Hein. Qu'est-ce que ça fait exactement au quotidien et comment fonctionne ce système ? Vous restez avec nous, on se retrouve après l'icône du rap français Passy et Roga Roga pour la touche rumba. Ils ont conjugué leur talent pour donner vie à Mon Africaine, les voisins, les voisines. Vous prenez la parole sur ces métiers trop souvent invisibles. Envoyez vos messages sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41, on vous donne la parole.
Roga, passé.
Momi na biso, mama na beto, mwana ya Congo, beto na beto.
Ma chérie coco,
on est ensemble pour la vie, matin, midi, soir, de jour comme de nuit.
Ma jolie chérie, t'es forte, vas-y fais-le.
Ma chérie coco,
voilà la patronne vêtue d'un beau pagne.
Coco coco,
madame, bonjour, ça va? Est-ce que je pose ça là? Après les salutations, politesse, on se remet très vite au travail. Madame crie quand ça va pas, en même temps gère la baraque. Enfant et tracas, traîner empêche au taf et braque. Ni son mari, ni son père ne l'interviendra. Belle classe, toujours apprêtée, sexe quand elle se met à danser. Femme guerrière de mon cœur, belle panthère sous l'équateur.
Mami la biso, mama na beto, mwana ya Congo, beto na beto. On est ensemble pour la vie, matin, midi, soir, de jour comme de nuit.
Mon Africaine.
Oublier cela, va ça, je ne pourrais pas. Oublier cette femme, maintenant, je ne pourrais pas. Oublier ton lava, ça, je ne pourrais pas. Oublier tes plats, ah non, je ne pourrais pas.
Je trinque à la victoire, la vie un combat. On avance main dans la main. Ce soir on fait histoire, à toi et moi. On s'ambiance, se met bien. Pour que notre histoire remplisse des pages. Ensemble on fait demain. Pour que nos enfants aient du courage pour la vie.
Ma chérie coco,
Barbadine notre coco. Tandolo tes saveurs préférées. Tu aimes la musique, belle dynamique. Tu gères le fric sur le matelas. T'es ma moitié. Qu'est-ce que t'es belle tout ce matelas. Un esprit fort et sain. Dans un corps bien en forme.
Mon minabiso. Mama na beto, mwana ya Congo, beto na beto. On est ensemble pour la vie, matin, midi, soir, de jour comme de nuit.
Mon Afrique,
je crois qu'à la victoire, la vie un combat. Ce soir on fait histoire, à toi et moi. Pour que notre histoire remplisse des pages.
pour que nos enfants aient du courage pour la vie.
Mon Nabiso, maman a beto, Mwana ya Congo, beto na beto. On est ensemble pour la vie, matin, midi, soir, de jour comme de nuit.
Mon Africaine,
oublier cela, va ça, je ne pourrais pas. Oublier cette femme, maintenant, je ne pourrais pas. Oublier ton là-bas, ça, je ne pourrais pas. Oublier tes plats, ah non, je ne pourrais pas.
Ma chérie, coco.
First lady, je ne m'inquiète pas, l'avenir du continent est dans...
Vous écoutez RFI, 8 milliards de voisins, nous sommes en direct. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces métiers invisibles, enfin invisibles, pour ceux qui ne souhaitent pas les voir. Caissière, personnel de ménage, livreur, chauffeur, vous nous appelez bien sûr pour témoigner de vos conditions de travail au 33 7 64 45 51 41. Des métiers invisibles qu'on appelle pudiquement et justement des métiers de service, mais qui peuvent... conduire à devenir misanthrope. C'est ce que vous nous le disiez. C'est ce que vous nous disiez, Rachel Belmédi. Racha Belmédi, vous avez effectué ces différents emplois pendant plusieurs années tout en étant journaliste pigiste. Vous venez de publier à votre service Les travailleurs essentiels qu'on ne voit pas aux éditions Favre. Et Cyrine Garde, vous êtes spécialiste, vous êtes sociologue et spécialiste de ces métiers essentiels et invisibles, classe populaire au travail en temps de pandémie. C'est le titre de votre recherche. Vous avez spécialement travaillé sur le secteur low cost. Bien sûr, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Je voudrais vous lire d'abord peut-être le message de Jacques qui vient de poster sur WhatsApp de Lubumbashi dans le sud de la RDC. Il nous dit, il a 27 ans, hein, Jacques. J'ai travaillé comme manutentionnaire dans une quincaillerie pendant 2 ans et demi. J'arrivais avant tout le monde pour ouvrir le magasin, pour balayer, pour mettre en place les produits. Si des clients achetaient du ciment ou du plâtre, c'était à moi de tout porter, sur mes épaules ou avec une brouette, jusqu'à leur voiture. Je n'avais jamais la reconnaissance des acheteurs, c'était normal pour eux. Et mon patron n'était pas aimable, il me stressait. Je travaillais 6 jours sur 7 pour... 40 dollars, c'est-à-dire 36 euros par mois. J'ai le sentiment d'avoir été exploité pour une paie insignifiante. Voilà, un métier de service, un métier qui, en principe, devrait être valorisé. Nous sommes également en ligne avec un autre auditeur, Mohamed, qui est à Richartol, dans le nord du Sénégal. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Mohamed, vous êtes agent de sécurité et
oui. D'abord
je dois vous remercier parce que je sais que vous avez des cycles de nuit et des cycles de jour et je crois que vous avez travaillé cette nuit, Mohamed.
Oui, j'ai été de faction, oui.
Et vous avez terminé votre travail à quelle heure alors, Mohamed?
Je termine à 8h, de 19h à 8h.
À 8h du matin?
Ouais.
D'accord, donc vous êtes resté réveillé pour témoigner dans l'émission. Pourquoi c'était important pour vous de vous exprimer sur ce sujet-là, Mohamed?
Oh, parce que tout simplement, je tenais à apporter ma modeste contribution. C'est un métier noble, mais extrêmement pénible et difficile. Mm. Mais on fait avec. Bon, nous, on est des... je veux dire qu'on est issus de l'armée nationale. Donc, c'était celui-ci. On a eu à faire des concours, mais bon, malheureusement, ça n'a pas marché, heureusement. Mais de toute façon, on fait avec. De toute façon, par rapport à ce métier, je dis que ce métier est extrêmement difficile et pénible. Qui doit être reconnu. L'État doit apporter des corrections par rapport à beaucoup de choses, beaucoup d'imperfections.
Par exemple, vous êtes agent de sécurité, ça veut dire que vous êtes en faction, par exemple, devant des magasins, devant des banques. En quoi consiste votre travail? Je crois que les entreprises pour lesquelles vous travaillez changent régulièrement, c'est ça? Parce que vous êtes dans une agence qui vous place selon la demande?
Oui, c'est ça.
Ouais.
On est régi par une autre société. C'est à lui de faire des placements, des affectations et des mutations.
Mmh.
Les agents recrutés, quoi. C'est-à-dire que c'est la société qui recrute.
Mmh.
Maintenant, vous restez à la disposition de la société. Tant qu'il y a des marchés, vous pouvez être ventilé à n'importe quel moment pour effectuer le service, quoi.
Mmh. Vous avez dit, Mohamed, vous pouvez être ventilé n'importe où?
Oui, mais c'est les clauses du contrat. Moi, par exemple, je suis ici d'une société... très puissant, très bien organisé, qui est en parfaite synergie avec l'État par rapport aux aux quittances de la caisse de sécurité sociale et de l'EPRES. Mmh.
Ça veut dire que votre emploi est déclaré, vous avez une assurance santé par exemple?
Ouais. Personnellement, pour moi, je dis tout haut. Mmh. Je dis haut par rapport à la société qui m'emploie. Parce que le patron, c'est un administrateur, donc il connaît exactement tous les rouages de l'administration sénégalaise. Nous, on est en synthèse avec la caisse de sécurité sociale et l'EPRES. C'est ce que je peux dire, ouais.
Quel est le regard des personnes qui passent devant vous quand vous êtes en faction en tant qu'agent de sécurité?
Bon, personnellement, par rapport à mon expérience et à mon point de vue, c'est à l'agent de sécurité d'être digne d'abord, de se respecter, d'être conforme par rapport aux clauses du contrat, c'est-à-dire être en tenue correcte, porter de bonnes chaussures, s'il a à sa disposition les armes et les accessoires, porter ça. C'est à lui de gérer son travail. Parce que c'est pas un travail, c'est un travail pénible, mais c'est un travail quand même qui demande beaucoup de respect et de dignité et d'engagement. C'est à l'agent de sécurité d'être conforme. Voilà.
Est-ce que c'est cette dignité dont vous parlez qui peut vous apporter le respect du regard extérieur?
En fait, excusez-moi madame, mais je veux dire que c'est pas seulement par rapport au métier de sécurité ou de gardiennage que l'individu doit se faire respecter. On doit se faire respecter parce que tout simplement c'est humain. Le respect est réciproque. Je pense que dans mes ouvrages que je lisais, il y a un sociologue américain qui disait, il s'appelle Hagen, que par rapport aux sociétés, c'est-à-dire que chacun doit être respecté par rapport à son statut. Le forgeron, il sera toujours forgeron. Le menuisier, il sera toujours menuisier. Le menuisier, il sera toujours menuisier. Donc c'est aux gens de s'en respecter.
Néanmoins, vous vivez dans un pays, dans une société de caste, hein, Mohamed, au Sénégal. Comment trouvez-vous le temps de lire des sociologues américains en tant qu'agent de sécurité, Mohamed?
Non, moi, avant d'être agent de sécurité, j'étais élève. Et en tant qu'élève, je faisais beaucoup de lectures. Donc, j'ai beaucoup de connaissances par rapport à beaucoup de... Voilà. La littérature, j'ai aimé avant d'être dans le... Parce que moi, malheureusement, je me suis engagé dans ce métier. Bon, parce que tout simplement, il y a les aléas de la vie qui me poursuivaient. Parce que j'ai fait l'armée. Et au-delà de mes 2 ans de service, je faisais d'autres concours, la police, la gendarmerie, la douane. Ça n'a pas marché et on a fait avec la société et depuis lors on est avec. Mais quand même, je remercie. C'est une société qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup motivé et voilà, je fais avec.
Je précise, Mohamed, que les aléas de la vie vous ont conduit donc à travailler aujourd'hui 56 heures par semaine. Hein. Ce sont des factions de 8 à 12 heures, que ce soit de jour ou de nuit, alternées avec 5 jours de repos. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer, Mohamed, sur ces emplois de service?
Moi, ce que je voudrais dire, c'est maintenant, c'est à l'État. C'est à l'État qui est régalien de prendre les choses en main. Il y a beaucoup de cacophonie, il y a beaucoup de tricherie, il y a beaucoup de sociétés qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas vraiment des sociétés responsables, qui prennent des gens, qui les exploitent, qui prélèvent. Par exemple, si c'est 100, ils prélèvent les 50% ou les 75% pour donner des miettes aux agents qui sont chargés de veiller. Maintenant, s'il y a braquage, c'est les agents qui se font tuer, c'est les agents qui se font massacrer. S'il y a vol, c'est les agents qu'on prenne, qu'on fout en prison, parce qu'ils sont responsables de rien du tout. Ils sont là parce que tout simplement, comme j'ai dit dans mon message, c'est les aléas de la vie qui les ont poussés à être... on ne choisit pas, ce n'est pas un métier qu'on choisit. C'est un métier qui, malheureusement, de nos jours, n'est pas valorisé. Donc tu dis, mais parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et maintenant, c'est à l'État de réguler tout ça, de faire respecter vraiment comme la nôtre, le statut social et j'en passe.
Merci à vous, Mohamed. Je pense que votre témoignage dans le nord du Sénégal à Richartol est édifiant. Vous avez tout dit, ou presque, en tant qu'agent de sécurité. Merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous, en direct, chez 8 milliards de voisins. Et on va vous laisser entamer votre nuit maintenant, bien méritée. Une nuit de repos après votre nuit de travail. Merci à vous, Mohamed.
Merci, parallèlement. Merci.
Merci. Cyrine Garde et Racha Belmedi, on vient d'entendre ce témoignage. On voit bien qu'on est dans une situation, dans un autre pays, où le droit du travail n'est pas forcément aussi bien respecté qu'en France. Encore qu'il y a énormément de questions à se poser sur la situation en France. Que vous inspire ce témoignage, Racha, Cyrine?
Moi, ce qui me frappe, c'est quand même la conscience de ce monsieur, c'est-à-dire à quel point il a conscience que voilà, ce n'est pas un métier qu'on choisit, à quel point c'est un homme qui a d'autres aspirations, je pense, d'autres rêves, des ambitions. Enfin, c'est quelqu'un d'instruit, il s'exprime extrêmement bien, il a lu, il nous cite des sociologues américains. Et ça, je pense que ça casse vraiment cette image qu'on a de l'employé de service qui est un petit peu une machine sans âme, sans émotion.
Dépersonnalisé aussi par le système.
Complètement dépersonnalisé, déshumanisé. Bien sûr, parce que ça permet, voilà, c'est une façon de regarder ailleurs et de se rassurer en se disant que ces gens-là sont très bien où ils sont et qu'ils n'ont pas, d'autres aspirations dans la vie. Et justement, ce témoignage vient nous prouver exactement le contraire, à quel point... voilà, on peut être instruit, lettré, avoir d'autres envies. Il m'est arrivé, moi, de croiser dans certains de mes emplois des personnes qui avaient eu d'autres vies auparavant, qui avaient été ingénieurs en pétrochimie. J'ai déjà croisé un pilote d'avion. Et ces personnes-là avaient eu des espèces d'accidents dans leur vie, ou bien alors parfois ils étaient originaires de l'immigration et ils avaient un petit peu de mal à valoriser leur expérience et leur diplôme, oui.
Cyrine Garde.
Oui, c'est pas un métier qu'on choisit, mais c'est un métier qu'on aspire à exercer dans la dignité. Et je pense que c'est ce qui fait défaut à ces salariés essentiels aujourd'hui. Ça a été souligné. Hein. Ce sont des métiers qu'on considère à tort comme étant faciles, à la portée de tous, parce que n'exigeant aucune qualification. Mais c'est assez erroné quand on observe de plus près la réalité de travail de ces personnes, mettent en œuvre énormément de compétences, gérer une interaction de service avec des clients parfois pas très agréables, pour ne pas dire complètement pénibles, gérer ses émotions. Tout ça, ce sont des compétences qui ne sont aujourd'hui pas reconnues, et c'est la raison pour laquelle ces salariés sont assez mal rétribués d'un point de vue matériel mais aussi symbolique sur le plan de la reconnaissance.
Toutes ces compétences ne sont pas valorisées comme des qualifications. Alors quelle est la différence entre une compétence et une qualification? Ça aussi c'est une vraie question. En tout cas, ça conduit à des témoignages tels que celui que nous venons d'entendre. Je vous lis aussi le message de Kimba, qui est étudiant en gestion ressources humaines à Niamey. Il nous dit, moi j'occupe un poste de caissier dans une société de transfert d'argent. Je vis dangereusement parce que beaucoup de guichets n'ont pas de vigie. Tous les agents font le même boulot, mais il y en a toujours qui sont mieux payés que d'autres. Et s'il y a un trou dans ta caisse, tu dois payer sur place, sinon ils t'emmènent chez les policiers. Nous sommes aussi en ligne avec Emmanuel, qui nous appelle de Rouen, en France. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Soyez le bienvenu.
Merci.
Vous estimez que vous exercez un métier de service peu valorisé? Vous êtes en contrat CDI néanmoins. Racontez-nous, Emmanuel.
Alors, je suis en contrat CDI, donc
dans la
livraison.
C'est ça, vous êtes livreur depuis 2 ans.
Oui, tout à fait, oui.
Ouais. Comment ça se passe pour vous, Emmanuel?
Oh, ben, je dirais que c'est très physique. C'est très physique dans le sens où... C'est des charges assez lourdes qu'on va porter toute la journée. Il y a le côté port de charge qui est vraiment très handicapant. Et puis, il y a le côté aussi rouler toute la journée, en longueur de journée.
Combien de kilomètres par jour en étant basé à Rouen, Emmanuel?
Non, mais le problème, c'est que c'est pas que Rouen. Donc, il y a c'est un peu la Normandie. On va sur le Havre, on ferait Fécamp, on ferait Deauville.
Vous pouvez faire plusieurs centaines de kilomètres par jour, Emmanuel?
Oh, par jour, facilement. Je tape 300-400 kilomètres par jour.
300-400 kilomètres par jour?
Oui, tout à fait, oui.
Quand vous livrez des meubles, je sais que vous êtes parfois amené à monter des meubles de cuisine en étage élevé et ensuite à les installer. Comment vous êtes perçu par les clients, qui sont des consommateurs?
Oui, bah, les clients, bah, ça se passe super bien. C'est des gens aimables. Donc, quand il s'agit de monter le meuble, quand c'est programmé avec le montage, bah, ça se passe super bien. Ils nous laissent de l'espace chez eux, hein, dans les appartements ou dans les maisons. On fait le montage par rapport au plan de montage. Ils nous donnent là où on veut. Si c'est une cuisine, faire un montage sur le mur, là c'est fait. Quand il s'agit des canapés ou des tables basses,
Si je comprends bien, le regard des clients, le mépris des clients, vous ne le ressentez pas en fait. Hein. Vous sentez suffisamment valorisé, mais pas en termes de salaire et pas en termes de travail physique en fait. Hein.
Non, au niveau des clients, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est des gens aimables. Souvent, ils nous donnent des pourboires. Ouais. Hein. Souvent, quand on fait des montages,
ouais.
On tombe sur des familles souvent assez aisées dans les campagnes. Souvent, ouais. Ils nous laissent pour boire de 20 euros, 30 euros. Ouais,
qui se commandent des cuisines.
Ça nous fait du bien.
Merci Emmanuel, en tout cas, de nous avoir appelés. Racha, peut-être un commentaire, parce que vous avez mal vécu très souvent un vrai mépris de classe et autour de vous aussi des clients qui vous montraient du doigt ou qui montraient du doigt d'autres femmes qui pouvaient être caissières par exemple en disant à leurs enfants tu vois ce qu'il faut faire pour ne pas être caissière, il faut travailler, bien travailler à l'école. Même Kadi, femme de chambre dans un hôtel, le dit elle-même pour ses enfants.
Oui, c'est vrai qu'on a remarqué qu'elle avait vraiment intégré cette idée de méritocratie, que voilà, si ses enfants faisaient des études, ils ne feraient pas la même chose. Malheureusement, c'est oublié pas mal de déterminismes sociaux. Effectivement, voilà, l'expérience que j'ai et les témoignages que j'ai recueillis sont très différents de ceux d'Emmanuel. Où, effectivement, là, je ne sais pas si c'était parce que c'était une expérience de consommation immédiate, mais là, c'était très différent. On pouvait avoir des clients qui claquaient des doigts pour appeler. Beaucoup de caissières m'ont raconté que souvent, quand ils avaient des clients qui venaient avec leurs enfants, ils les montraient du doigt en précisant à l'enfant ben voilà, si tu ne fais pas d'études, tu vas te retrouver à la place de la dame. Et tout ça, c'est d'une violence.
Et des violences physiques aussi.
Absolument, et des violences physiques. Moi, j'en ai déjà fait les frais. J'ai déjà eu une cliente qui m'a balancé un tas de vêtements à la figure et un cintre m'a cogné le coin de l'œil et j'ai eu un bleu pendant 2 jours. Tout ça sur des prétextes complètement futiles. Il y a des agressions régulièrement. On en voit régulièrement. Enfin, il suffit de taper agression. Enfin, sur les réseaux sociaux, c'est des vidéos qui tournent, qui sont visibles de tous. Donc c'est assez commun. C'est assez commun et malheureusement, ça tend à augmenter.
Comment s'applique finalement cette règle commerciale dans les métiers de service ? Le client a toujours raison. Est-ce que c'est ça qui forge ce système-là de métiers de service qui deviennent des métiers de servitude ? Cyrine ?
Oui, je dirais qu'effectivement, les entreprises de service vont beaucoup cadrer la manière dont le service doit être rendu au public, à l'usager, au client. Ça dépend évidemment des contextes professionnels dans lesquels ce service est produit. Mais oui, il y a clairement un niveau d'exigence, alors qui peut bien sûr varier, parce que quand on sait que ces entreprises s'organisent toutes autour de logiques de profit, qui sont des logiques de réduction des coûts, que derrière ce grand service qu'elles vendent, elles ne mettent pas beaucoup d'effectifs ou des effectifs extrêmement réduit, nécessairement la qualité de service, elle devient très dégradée et on en a de nombreux exemples. Alors les enseignes low cost en sont un exemple, mais on peut aller chercher beaucoup plus loin dans les maisons de retraite hein, où il y a effectivement des problématiques de sous-effectifs qui sont régulièrement soulevées et qui dégradent la qualité du service rendu à des personnes âgées, populations vulnérables.
8 milliards de voisins sur WhatsApp. 33 7 64 45 51 41.
Nous sommes en ligne avec Patricia qui nous appelle de l'Hexagone, je crois, Patricia. Vous êtes à Paris. Bonjour, Patricia.
Bonjour.
Vous souhaitiez vous exprimer. Vous êtes aide-soignante, c'est bien cela ?
Oui.
Oui.
À l'hôpital, oui.
D'accord. Donc, voilà. Vous avez la sécurité de l'emploi ?
Oui. Autrefois, oui, mais maintenant, c'est fini.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, autrefois, les fonctionnaires ne pouvaient pas être chassés de leur métier. Mais maintenant, ça y est, la loi a été votée il y a un ou deux ans maintenant. On peut être maintenant viré de l'assistance publique.
Oui, c'est assez rarement le cas quand même.
C'est rare, mais il faut faire un gros dégât.
Pourquoi vous vous sentez appartenir à ces métiers invisibles de service, alors que, pour le coup, n'importe quel malade à l'hôpital vous voit, et non seulement vous voit, mais est reconnaissant en général quand même de la part de ces métiers de soins, Patricia. Pourquoi vous avez souhaité vous exprimer en quelques mots ?
C'est pour vous dire que non, ça c'est l'illusion, c'est un tabou.
Ah. Oui.
Et puis on est à l'hôpital, c'est faux. Je ne parle même pas au niveau des malades. Les malades encore, personnellement, je peux dire encore peut-être que c'est la révolte par rapport à son état. Je peux encore me faire une raison. D'abord, c'est ce que je me fais en général. Mais je
vous, vous voulez dire que les malades, vous voulez dire que les malades ne sont pas si respectueux que ça vis-à-vis de vous, alors qu'ils ont tant besoin de vous dans leur situation?
Mais non, mais non. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout.
Ils se consomment, ils se considèrent comme des clients finalement d'une certaine manière.
Tout à fait. Des clients, des malades, donc ils n'ont que des droits, ils n'ont pas de devoirs. Voilà. Vous êtes obligé de leur rappeler, évidemment avec la bienveillance, parce qu'on nous a appris à dire que parfois certains malades. C'est la colère de la vie, pourquoi moi, pourquoi pas l'autre, pourquoi. Personnellement, je me fais une raison, je réponds aux malades, mais dans la bienveillance. Ou parfois, quand je suis pas, quand c'est allé trop loin, je dis, bon, écoutez, je n'ai pas en état de vous répondre, je vous reviendrai plus tard, voyez, pour ne pas me mettre aussi dans des problèmes.
Au niveau de votre hiérarchie, comment ça se passe?
Au niveau de la hiérarchie, ça va. Ça va, ils arrivent à comprendre et puis faire ce qu'il y a à faire. Rappeler aux malades que ben voilà, vous êtes là pour être soigné, mais vous avez des droits et des devoirs aussi vis-à-vis des soignants, des aides-soignantes. Mais je parle plutôt au niveau de nos collègues infirmiers et infirmières.
Ah.
Le problème, c'est à ce niveau-là.
C'est-à-dire?
Aucune considération.
Parce qu'ils se considèrent supérieurs à vous en tant qu'aide-soignante?
Parce qu'ils ont fait, voilà. Parce que, et pourtant, on a ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les compétences communes. Vous savez, la formation d'infirmière, c'est 3 ans. Et la première année, c'est l'hygiène de base. C'est ce que nous faisons. Vous savez, dans les relations, dans les préparatifs des matériels, etc., etc. C'est la première année d'école d'infirmière. Vous voyez? Mais beaucoup d'infirmières nous prennent pour un moins que rien. Ils pensent qu'on a du coton à la place du cerveau. Je vous donne même récemment. Il n'y a pas que ce week-end, par exemple, parce que j'ai travaillé de nuit, il y a un malade qui mangeait très lentement par rapport à son état de santé, et j'ai oublié d'aller débarrasser le plateau. L'infirmière est rentrée, prend le plateau, déposé par terre, et est venue me chercher. Que Patricia, il y a le plateau dans la chambre de Monsieur X et dans la chambre Y. Eh bien, comme je suis allée, le plateau était par terre.
Ouais.
Et puis, ce n'est pas qu'elle était occupée.
Elle voulait que vous vous abaissiez conformément à la position qu'elle imagine pour vous, si j'ai bien compris.
Vous voyez.
Merci Patricia, merci beaucoup de nous avoir appelé en direct chez 8 milliards de voisins. Dans ces emplois de service souvent invisibilisés, c'est vrai que il y a des castes, il y a des hiérarchies. Hein. D'ailleurs, vous l'avez beaucoup vécu toutes les deux et vous l'avez beaucoup analysé, Cyrine Garde, en quelques mots.
Oui, tout à fait. Le mépris, il ne vient pas uniquement de la clientèle ou du public. Il peut aussi venir de la hiérarchie lorsqu'elle ne reconnaît pas suffisamment le travail effectué. Ça a été assez manifeste pendant le Covid. Moi, les caissières que j'ai interrogées ont beaucoup dit qu'elles auraient aimé ne serait-ce qu'avoir un merci de la part de leur hiérarchie, dont une partie, parfois, n'était pas présente sur les lieux parce qu'en télétravail.
Alors, bien sûr, on va aussi parler des solutions, si elles existent. Mais je voudrais, dans quelques instants, que l'on donne la parole à la situation de travailleurs précaires en Argentine.
8 milliards de voisins et de voisines.
Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin.
On va vite, on va plus loin. Vous êtes nombreux à nous appeler pour témoigner. Nous sommes maintenant en ligne avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience. Bonjour Théo.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
En Argentine, les personnes qui travaillent dans les emplois de service sont d'autant plus précarisées que bien souvent, ils ne sont pas déclarés par leur employeur dans un pays pourtant développé.
Oui, en Argentine, un salarié sur trois est payé au noir et appartient donc à l'économie dite informelle. En tout, on parle presque de 5,5 millions de travailleurs et de travailleuses qui ne bénéficient pas de protection sociale. La plupart d'entre eux travaillent dans des petits commerces, dans le secteur de la construction ou dans les services à la personne. Mais au-delà de ne pas cotiser pour leur retraite ou de ne pas avoir de mutuelle, ces personnes sont surtout plus vulnérables au grand fléau argentin, l'inflation, qui a dépassé les 211% en 2023. Les salariés non déclarés n'ont pas accès aux paritarias, qui sont un mécanisme de renégociation régulière des salaires dans le secteur formel. Résultat, ils se font grignoter par l'augmentation des prix. Selon l'INDEC, l'Institut Statistique National, l'an dernier, les salariés de l'économie informelle ont perdu un tiers de leur pouvoir d'achat du fait de l'inflation, 3 fois plus que dans le secteur formel.
Un tiers de pouvoir d'achat en un an, ça semble énorme. Alors comment font-ils pour s'en sortir ?
Eh bien, de nombreux Argentins cumulent plusieurs emplois, parfois même formels et informels. Parce qu'en fait, avoir un travail ne garantit plus de pouvoir vivre dignement. En Argentine, une famille de 4 personnes a besoin de 500 000 pesos, environ 560 euros, pour ne pas passer sous le seuil de pauvreté. Eh bien, 500 000 pesos, c'est 3 fois plus que le salaire moyen dans le secteur informel. Ça veut dire que dans un foyer avec 2 enfants, Même si les deux parents travaillent, et bien souvent, ce n'est pas suffisant pour vivre dignement. Et le plus inquiétant, c'est que 3/4 des emplois créés depuis la pandémie sont des emplois informels et que le nombre de monotributistas, c'est-à-dire d'auto-entrepreneurs comme les livreurs à vélo, les chauffeurs de VTC, augmente lui aussi. De plus en plus d'emplois précaires dans un contexte d'inflation toujours plus élevé qui font qu'aujourd'hui, un Argentin sur 4 vit sous le seuil de pauvreté.
Et ces travailleurs précaires en Argentine, comment vivent-ils l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, le nouveau président argentin ultra-libéral ?
Eh bien d'abord, il faut préciser que beaucoup d'auto-entrepreneurs et beaucoup de travailleurs de l'économie informelle ont voté pour Javier Milei parce qu'il avait promis d'en finir avec l'inflation. Mais les mesures qu'il a prises depuis son arrivée au pouvoir, notamment la fin des accords de prix et une dévaluation de 50% de la monnaie nationale, ont fait exploser l'inflation, plus 25% rien qu'au mois de décembre. À côté de ça, il a aussi signé un décret de dérégulation massive de l'économie qui abroge ou modifie plus de 300 normes et lois, notamment en matière de droit du travail. Ça veut dire moins de protection pour ceux qui ont un emploi formel. Et pour ceux qui travaillent au noir, Javier Milei a supprimé les amendes que devaient payer les patrons qui ne déclarent pas leurs employés. À court terme, on se dirige donc vers encore plus de précarité pour les travailleurs en Argentine.
Merci Théo Conscience, correspondant de RFI en Argentine. Merci infiniment. Cyrine Garde et Racha Belmedi, évidemment, là on vient de voir la situation de l'Argentine qui est bien plus dramatique que celle de la France. Néanmoins, aujourd'hui, à la lumière de tout ce qu'on a entendu comme témoignage, on a eu des témoignages en France, des témoignages sur le continent africain, la situation en Argentine, quelles seraient les solutions pour changer l'image de ces métiers, les revaloriser, mais pas seulement, je dirais, concrètement, mais également aussi sur leur place dans la société, Racha Belmedi.
Pour moi, il est vraiment temps pour les personnes qui sont réellement en position de pouvoir, à savoir l'État, de sévir. C'est-à-dire que si on veut revaloriser ces métiers-là, il va falloir, désolé du terme, taper un petit peu sur les doigts des patrons parce qu'ils ont des responsabilités qu'ils ne prennent pas. Ils n'assurent pas toujours la sécurité de leurs employés, ils n'assurent pas toujours le fait qu'ils travaillent dans le confort, dans la dignité. Et ça, c'est assez important. De pointer le doigt, voilà, la responsabilité de l'État dans la dégradation des conditions de travail de ces personnes. Oui.
Comment expliquer, Cyrine Garde, que ces emplois font rarement l'objet de débats de société ?
Ce sont des personnes qui sont dépossédées de la parole publique, et dépossédées de la capacité, de la possibilité en fait, de dire leur réalité. Bien souvent, ce sont des gens qui parlent à leur place, moi la première. Hein. Et donc des personnes qui sont écartées en fait, hein, du débat public. Et c'est vraiment important de le dire parce que on répète à tout bout de champ que ces salariés sont essentiels, mais sont-ils traités comme s'ils l'étaient ? Et je pense que tout le nœud du problème, il est là. Il faut arriver à trouver le moyen de traiter ces personnes comme si elles étaient réellement essentielles. Ça passe par les rémunérations, ça passe par la reconnaissance concrète de la pénibilité de leur travail, ça passe aussi par une réflexion sur c'est quoi une activité essentielle pour notre société. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que c'est essentiel qu'un livreur à vélo pédale des dizaines de kilomètres pour livrer un burger ? Je n'ai pas la réponse, on ne peut pas la trouver nous ici, parce qu'il faut qu'on en discute collectivement et que les premiers concernés donnent leur avis sur la question, que ce soit eux ou leurs représentants, par exemple les organisations syndicales, qui ne sont pas très souvent consultées sur cette question.
Qui ne sont pas très souvent consultés, mais aussi parce qu'on assiste à un regroupement de métiers très disparates et c'est très compliqué de se fédérer. Finalement, il n'y a pas de représentants de combat comme on avait la classe ouvrière ou les agriculteurs d'ailleurs. Hein. Dans les agriculteurs, là je ne parle pas des super céréaliers, mais plutôt des éleveurs de porc à 600 euros par mois. Mais ces emplois de service, ils sont très féminisés, vous l'avez dit, hein. Beaucoup d'inégalités, beaucoup de stéréotypes, y compris d'ailleurs ethniques. Mmh. Et ça ne facilite pas finalement le fait de trouver des porte-parole.
Oui, alors après, ces salariés sont invisibles, mais comme le dit Racha Belmedi dans son livre, c'est aussi parce qu'on ne veut pas les voir. Il y a des grèves de femmes de chambre, il y a eu des grèves dans la grande distribution pour réclamer une revalorisation de salaire en 2021, au début de l'année 2022, il y a des actions, les salariés se mobilisent.
Et il y a eu d'ailleurs des petites revalorisations mais qui sont mangées par l'inflation.
Absolument, les héroïnes et héros qu'on applaudissait dans la période précédente aujourd'hui ont des budgets extrêmement serrés du fait de l'inflation, même s'il y a eu des hausses de SMIC, hein, mais des hausses de SMIC qui sont automatiques, hein, et qui ne sont pas liées à la reconnaissance d'un effort.
Racha Belmedi, un mot de conclusion avant qu'on se quitte ?
Le client est roi, mais les rois, on leur coupe la tête.
Je dois dire que c'est assez radical comme conclusion. Néanmoins, on pourrait trouver un juste milieu et dire aux managers qu'ils peuvent éduquer le client pour qu'il soit plus respectueux. Il reste tant à faire. Merci à vous, Racha Belmehdi. Vous venez de publier à votre service Les travailleurs essentiels qu'on ne voit pas aux éditions Favre. Ça vient de sortir. Pas du tout larmoyant, mais plutôt drôle et même très drôle et ultra réaliste. Et merci à vous, Cyrine Garde.
Merci.
Sociologue, vous avez publié Essentiel et invisible, classe populaire au travail en temps de pandémie aux éditions du Croquant. Merci aussi à toute l'équipe, pas du tout invisible, je peux vous le dire, même si vous ne l'entendez pas derrière le micro, extrêmement active et citée presque tous les jours dans l'émission. Juliette Brault, Delphine Cachin, Romain Dubrac, Pauline Barthélémy qui était aussi à l'accueil auditeur pour faire le lien en direct avec l'antenne. Et n'oubliez pas de télécharger nos émissions que vous avez manquées. Tous les sujets sont annoncés sur les plateformes de téléchargement. Dans quelques instants, ce sera RFI Midi, l'actualité de la mi-journée. On se quitte avec une chanson sur les inégalités au Brésil. Et ce titre posthume en l'honneur du batteur, chanteur, compositeur Wilson das Neves, enregistré avec Chico Buarque et Emicida, sa compagne.
Desde a vergonha da escravidão, na aflição da senzala, se vê separação de cor. O negro está sempre ao rés do chão, nos degraus dessa escala. Isso não mudou.
Desde o momento da criação, da primeira favela, a desagregação voltou.
Negro ainda está nessa condição de miséria e mazela de quando começou.
Chicote ou zunido de bala, favela ou senzala, não faz diferença.
Parece que em toda novela, senzala ou favela é a nossa sentença.
E onde entra a mão do governo, é só uma política mais de exclusão.
Esse nosso apartheid é sem termo, temos que brigar por outra abolição.
Desde a vergonha da escravidão, na aflição da senzala, se vê separação de cor.
O negro está sempre ao rés do chão, nos degraus dessa escala.
Isso não mudou.
Desde o momento da criação, da primeira favela,
a desagregação voltou. Negro ainda está nessa condição de miséria e mazela de quando começou.
Chicote ou zunido de bala, favela ou senzala, não faz diferença. Me parece que em toda novela, senzala ou favela é a nossa sentença.
E onde entra a mão do governo, é só uma política mais de exclusão.
Esse nosso apartheid é sem termo, temos que brigar por outra abolição.
De voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, les auditeurs, les auditrices. À demain, les voisins et les voisines. On est bien 8 milliards maintenant sur la planète. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.